RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Aujourd'hui, un trio de GG composé de Kaouter Ben Mohamed, la présidente de l'association Marseille en colère, avec son meilleur ami Bruno Pomard, l'ancien policier du Raid, le maire de Belfort.
Avec qui va partir en vacances.
Nous sommes avec...
en train de caler leurs vacances, là.
Mehdi Guézard, le chef d'entreprise. Les GG, c'est 3 heures de discussion et de débat tous les jours. On vient de passer la première heure. Elle est déjà disponible en podcast.
Bien sûr.
Si vous voulez aller la rechercher. 3 millions de podcasts aussi pour les GG, qui reste la première émission de débat podcasté en France. Merci là encore aussi de votre fidélité et de votre confiance. On va maintenant débattre des gilets jaunes. Est-ce qu'ils peuvent revenir, les gilets jaunes? Souvenez-vous de ce qu'a dit Fabien Roussel, le numéro 1 communiste, il y a quelques semaines. C'était lors d'une manifestation. Il dit: écoutez, il y a la vie chère, la spéculation, la crise pétrolière, la crise énergétique. Il faut reprendre les ronds-points, il faut remettre la pression sur le gouvernement. D'accord ou pas? 32-16 pour en parler avec les GG.
RMC, les grandes gueules.
Si le gouvernement n'entend pas que la cocotte est en train de bouillir, si le gouvernement n'entend pas qu'il y a besoin de prendre des mesures fortes visant à s'attaquer à la spéculation, pas continuer de faire des petits chèques parce que ça nous coûte un bras, mais de s'attaquer aux causes de la spéculation, eh bien oui, il faudra pousser par tous les bouts. Et s'il faut demain réoccuper les ronds-points pour dire stop, basta, il faut agir, eh bien il faut le faire.
Voilà l'appel de Fabien Roussel.
Alors c'est là où on voit la fin quand même des syndicats, parce que Fabien Roussel qui demande au peuple d'aller sur les ronds-points. À quoi servent les syndicats? Ils n'existent plus.
Et ça montre aussi même peut-être aussi la fin un peu des politiques, parce que quand un politique appelle à manifester, ça veut dire que son action elle-même n'a pas d'efficacité. Mais au-delà de ça, c'est vrai que avec les aides, les ristournes qui vont s'arrêter, il y a encore 10 centimes jusqu'à la fin de l'année, et ensuite il y aura plus rien. Il y aura une aide ciblée, mais on ne sait pas précisément comment. C'est sûr que l'essence va coûter beaucoup plus cher. L'essence va coûter cher au moment où nos factures vont augmenter, malgré le fait que le gouvernement a décidé de plafonner l'augmentation. On va quand même payer beaucoup plus cher le gaz, l'électricité, cet hiver, entreprises et particuliers. Et donc, effectivement, comme le dit Fabien Roussel, la cocotte est en train de bouillir, et pour moins que ça, les gilets jaunes étaient descendus dans la rue pour manifester. En même temps, du côté du gouvernement, on pense que a priori, il n'y aura pas de mouvement social. Pourquoi? Parce que déjà, il y a quand même beaucoup d'argent, des milliards d'euros qui ont été déversés pour essayer de limiter l'inflation. On est d'ailleurs l'un des pays qui a le plus donné d'argent aux gens pour limiter l'inflation, même si bien sûr c'est pas suffisant, mais il y a quand même une enveloppe de 46 milliards d'euros qui a été votée dans le projet de loi de finances pour aider les ménages à payer leurs factures. Il y a eu les 25 milliards d'euros qui étaient bloqués cet été dans le cadre du paquet de pouvoir d'achat. Il y a aussi 8 milliards de l'aide pour le carburant. Enfin, ça fait quand même beaucoup de milliards. Il faut quand même comprendre que finalement, on a une inflation, mais elle est peut-être un peu moins forte que nos voisins. Est-ce que ça suffit pour calmer tout le monde? Ou au contraire, vous pensez qu'on pourrait assister à un retour des gilets jaunes?
32-16 pour le dire au GG, le dire au grand gueule Bruno.
Mais toute la difficulté pour le gouvernement, mais depuis le départ, depuis l'avènement des gilets jaunes jusqu'à maintenant, sur toutes ces augmentations, c'est d'essayer de savoir comment on pourrait aider ceux qui sont les plus précaires. Et qu'on doit vraiment aider eux. Et l'ensemble de la population, les 70 millions de
personnes. Les gilets jaunes,
si on ne peut pas aider 70 millions de personnes, c'est ça le problème de notre.
C'est pas les plus vulnérables. Les gilets jaunes,
c'était pas les gilets jaunes. C'est les Français qui travaillent
et qui ont perdu du pouvoir d'achat.
Qui ont l'impression qu'avec leur travail, ça ne suffit pas pour vivre correctement.
Je suis d'accord, mais il y a une équation à trouver, justement. Le nombre de millions de gens qu'on a besoin d'aider et les 70 millions dans leur ensemble qu'on ne peut pas aider éternellement, parce qu'on voit quand même tout le fric qui est dépensé.
Les gilets jaunes et l'occupation.
Il va falloir le payer, les entreprises vont devoir le payer.
L'occupation des ronds-points, c'était parti de, on disait, la France périphérique, de la diagonale du vide, des provinces. Est-ce que tu le sens, toi, vers chez toi, dans l'Aude, de nouveau, cette colère et cette envie de ressortir ou pas?
Pas vraiment. Moi, je vois les artisans, ça bosse, même ils sont surmenés de demandes de chantiers extres. Non, c'est vrai que je le ressens pas nécessairement. J'y suis pas toujours, évidemment, dans mon village, mais tous les retours que j'ai même de mes élus, effectivement, on le ressent pas encore, très sincèrement.
Kaouter.
Je ne le ressens pas encore, peut-être parce que tu es dans une très petite bourgade, mon cher. Mais c'est vrai que les gilets jaunes, nous, à Marseille, dans la grande ville, on n'en a pas eu. C'était toutes les villes avoisinantes, Istres, Fos, etc., qui sont des villes qui travaillent, tu vois, où il y a
ouvrière,
ouais. Ou des villes ouvrières,
tu vois. Beaucoup de gens précaires.
Mais ouais. Effectivement, je te rejoins parce que les gens se plaignaient que les quartiers populaires ne les rejoignent pas. Mais c'était pas la bataille des quartiers populaires qu'ils étaient déjà dans une situation précaire. C'était vraiment la classe moyenne qui part en vacances régulièrement, qui vit correctement au départ, qui a perdu un gros pouvoir d'achat. Mais moi, je vais te dire, hein, franchement, et pourtant, je suis quelqu'un de très, très engagé. Je pense pas que les Gilets jaunes aient été une réussite. Je pense que ça a été des manifestations qui ont été hyper violentes pour les deux parties, que ce soit les manifestants qui réclamaient de vivre mieux de leur salaire, pour le coup, que pour la police qui a été épuisée par les Gilets jaunes. Tu vois, ils en pouvaient plus, les mecs. Moi, je les voyais. Ils les baladaient. Tu vois, ils faisaient des parcours qui n'avaient ni queue ni tête parce que justement, c'était pas des parcours militants. Et ça a été pour moi un échec parce que il est ressorti quoi des Gilets jaunes? Quelle mesure gouvernementale nationale a été adoptée à la suite de ce mouvement pour protéger les gens sur ce qu'ils réclamer, à savoir un pouvoir d'achat plus correct de leur salaire. Donc je ne suis pas sûre que dans ce contexte post-Covid où tout est compliqué, où les entreprises n'arrivent plus à vivre, et là je parle des petites entreprises, pas des grands patrons qui se gavent, etc. etc. Je pense que le meilleur moyen d'action, tu vois, et c'est là où j'en veux aux politiques, c'est qu'eux ils sont dans une tour dorée, ils sont protégés de tout, et ils agitent le petit peuple, tu vois, à leur donner des solutions, enfin à leur proposer des solutions qui n'en sont pas, alors, parce qu'ils sont juste désespérés, et qu'encore une fois, on peut pas aider 70 millions de personnes, je te l'accorde. Il faut juste, à un moment donné, que les gens, je le répète à chaque fois, puissent vivre décemment de leur emploi.
Moi, je suis pas sûr que c'est de l'aide que demandaient les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, d'ailleurs, ne voulaient plus de la taxe carbone. Ils voulaient qu'on leur foute la paix avec les taxes et les impôts. Et au contraire, ils veulent moins de contraintes. Et ils voulaient simplement pouvoir vivre de leur salaire. C'est donc, c'est pas de l'aide, ça.
C'est
justement, je pense que là, peut-être que le gouvernement fait une erreur et c'est un contresens. Les Français ne veulent pas qu'on les aide à tout va.
Ils veulent
simplement pouvoir vivre de leur boulot.
Oui, mais ça. Olivier, moins de taxes dans les caisses de l'État, c'est moins d'aide. Le cercle
est... Oui, mais justement, si tu taxes moins.
Ouais, tu contredis.
Contredis,
tu redistribues.
Tu sais que le carburant, il est quand même taxé à hauteur de 4%.
Oui.
Donc, sur un litre de carburant qui coûte 1 euro, c'est.
J'entends, mais ça rentre dans les caisses de l'État.
Il y a 64 centimes qui rentrent dans l'État.
Oui, mais les milliards qu'a énuméré tout à l'heure Olivier,
oui, c'est des impôts.
Quand tu enlèves 30 centimes.
Je sais pas si l'équation est aussi simple.
Quand tu enlèves 30 centimes d'aide alors que le carburant il est à 1,70€, 1,80€ en moyenne, pour un plein, c'est un budget, hein. Tu vas rajouter entre 20 et 25 euros par plein. Pour un véhicule qui prend à peu près entre 80 et 100 litres. Donc je suis désolé, mais c'est de l'argent en plus. Ne l'oublie pas, Bruno, c'est de l'argent en plus dans les caisses de l'État.
Bien sûr. Mais qu'on redistribue.
Peut-être maladroitement, mais on le redistribue cet argent. Alors, au lieu de le redistribuer, pourquoi tu ne le prends pas
directement
l'origine? En fait, je comprends pas. Pourquoi, en fait, je te prends.
Pourquoi tu baisses pas les impôts.
Voilà, je te prends d'une main pour te donner d'une autre main. Mais j'ai pas besoin que tu me donnes. Je touche du bois. C'est pas pour moi. Mais excuse-moi, mais des personnes qui sont en situation précaires ou difficiles, ou même qui sont en situation juste, ils travaillent mais ils n'arrivent pas à payer leur plein d'essence ou de gasoil à 100€, 120€, 130€, et tu te dis que sur le plein de 100€ que tu mets, il y a 64€ qui vont directement en taxes. Excuse-moi, ils ont la légitimité de faire la gueule. Oui. Ils l'ont, cette légitimité. Parce qu'on dit, oui, c'est les grands groupes pétroliers. Mais les grands groupes pétroliers, ce sont des entreprises privées. Ils ne font que 36% de ce que gagne l'État en ne faisant.
C'est surtout l'État, rien.
Donc, s'enrichit. Je suis désolé, Bruno, tu sais,
il s'enrichit. Il s'enrichit, mais il redistribue. Il y a tellement de pauvreté.
Il n'y a pas que le carburant.
On a tellement d'aide sociale pour aider nos compatriotes.
Mais regarde, les clubs.
Toi, tu n'en as pas besoin, moi non plus.
Mais il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui touchent 1500 euros.
C'est pas une question d'en avoir besoin.
Excuse-moi, il y a des gens qui touchent 1500 euros.
Moi, je suis d'accord avec Olivier.
Il y a des gens qui touchent 1200 euros. Quand tu leur enlèves 100 ou 150 euros de plein, c'est un dixième de leur budget, hein. C'est énorme. Alors, pour aller bosser, hein. C'est pas pour aller en vacances.
On va donner la parole à Jérôme Rodriguez,
qui
est figure des Gilets jaunes, qui est avec nous. Je sais qu'il écoute régulièrement les grandes gueules. Bonjour, Jérôme.
Bonjour.
Bonjour à vous, madame, messieurs, bonjour.
Est-ce que la colère est suffisamment là pour que les ronds-points soient de nouveau occupés ou pas?
Alors, de nouveau, c'est un mot qu'il faut pas utiliser. Il faut savoir que samedi dernier, il y avait déjà 80 ronds-points qui étaient repris. Il y a constamment le samedi, par période épisodique, des gens qui viennent sur les ronds-points pour pouvoir discuter avec l'ensemble de la population. Aujourd'hui, des problèmes qu'on peut tous rencontrer les uns autant que les autres. Donc, cette façon, à chaque fois, de mettre le préfixe « re » avec « revienne »,« retour », non, c'est... Ils sont toujours là, et quoi qu'il advienne, ils sont
moins
présents dans la rue, en termes de nombre. Mais si on se place à l'échelle des réseaux sociaux et des retours que moi, je peux avoir en termes de courrier, en termes de retour du niveau de vie que peuvent avoir les gens aujourd'hui, c'est catastrophique.
Jérôme, 80 ronds-points sur 36 000 communes, c'est quand même pas une mobilisation extraordinaire.
Mais hein. À l'époque, chez Pascal Pro, on disait qu'avec 36 000 communes, 36 000 ronds-points, c'était pas suffisant non plus. Donc à un moment donné, c'est pas le fait qu'on soit nombreux ou pas, c'est la contestation aujourd'hui qui a été étouffée au maximum. Et aujourd'hui, moi c'est simple, j'ai encore vu un message cette nuit où quelqu'un m'a dit: Jérôme, quand je vois ta gueule, j'ai pas envie d'aller en manifestation, j'inspire la terreur, j'ai un œil crevé. Donc forcément, aujourd'hui, les gens ont peur d'aller manifester.
Mais est-ce qu'aujourd'hui...
Pas là pour parler de la violence. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur le fond du sujet et je voudrais dire à monsieur Kader, c'est ça, si j'ai bien retenu son prénom.
Mehdi.
Quand Mehdi nous dit que sur un billet de 100 euros d'essence, on nous prend 60 euros, aujourd'hui, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait de cet argent.
Oui,
moi, je vais vous donner un exemple.
Oui.
Je vais vous donner un exemple très précis. Je vais vous donner un exemple très précis. L'année dernière, quand le gaz a pris 57%, ça a ramené un excédent budgétaire de 7 milliards d'euros dans les caisses de l'État. 7 milliards de fraîches qui n'étaient pas prévues. Sur ces 7 milliards, on a pris 10%, on a donné 700 millions sous forme de chèque énergie. 700 millions pour tous les Français qui galèrent au terme d'énergie. Tous les Français aujourd'hui galèrent sur l'énergie, quoi qu'il advienne. Même le boulanger, comme le mec qui est chez lui. Donc, à un moment donné, moi, aujourd'hui, il me manque un chiffre qui est le suivant. Quel est l'excédent budgétaire depuis le début de l'année sur les prix à la pompe au carburant? Parce que cet excédent budgétaire, si déjà sur le gaz à 57%, on est à 7 milliards, j'imagine même pas les milliards de frais qui sont arrivés.
Jérôme, derrière, si je peux me permettre.
Juste une immédiate.
Bien sûr.
Quand vous dites, on prend d'un côté pour enlever de l'autre, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? On peut pas baisser directement les taxes?
Voilà, c'est ça, c'est ce que je dis.
C'est
ce que je demande, moi je demande rien d'autre.
Je finis
juste une chose, parce qu'à un moment donné, les gens se sont mis des coups de couteau. Pénurie d'essence qui a lieu il y a quelques semaines et encore aujourd'hui. Mais quand il va y avoir la pénurie dans les porte-monnaies de thunes, à qui vont mettre des coups de couteau? Parce que c'est là le danger. Moi, le Rodriguez qui casse des vitrines. Moi, je vous dis aujourd'hui, on va arriver sur des schémas de violence. Parce que ça devient catastrophique, les prix.
Oui, mais justement.
Et au-delà des prix en rayon, allez voir, parce que vous avez la légende qui dit que Rodriguez, il est plombier. Rodriguez, il a traîné 20 ans dans les carrefours, les Leclerc et autres grandes surfaces. Et je vous dis, moi, à l'état des rayons, et c'est un œil professionnel qui vous parle, il y a un sérieux problème, les gars.
Mais alors Jérôme, justement, moi je ne crois pas au retour des gilets jaunes, parce que dans l'histoire des mouvements sociaux, on a rarement fait deux fois la même chose. On peut avoir la colère peut être toujours la même, mais c'est rare qu'on refasse exactement la mobilisation. Mais est-ce qu'il faut pas inventer justement de nouveaux modes d'action justement pour obtenir ce que vous voulez obtenir.
Aujourd'hui, vous avez un projet de loi qui met en place que si on vient ouvrir les barrières de péage pour rendre gratuit aujourd'hui la liberté de circuler, on va se prendre 1000 balles d'amende. Vous savez à combien je suis d'amende aujourd'hui? Parce que j'ai eu l'affront d'aller manifester au-delà de mon œil, je suis à plus de 10 000 euros.
Jérôme.
Mais voyez, alors moi je vais juste vous dire, comment vous dire, aujourd'hui le problème qui va se poser, c'est que vont arriver sur le marché de la précarité, le marché de la misère, des gens qui n'ont jamais eu la chance ou la malchance d'y accéder. Nous on nous a appelés les sans-dents. Bah, preuve en est qu'on n'a pas eu beaucoup de mordants parce qu'on s'est fait déglinguer, on est retourné à la maison. Mais ceux qui vont arriver aujourd'hui sur le marché de la précarité sont des gens qui ont encore la chance d'avoir des dents, voire des billes. Je vous garantis que la première canine, elle va sauter. Ils vont peut-être mordre beaucoup plus fort que les gilets jaunes. Alors vous qui vous inquiétez des schémas de violence, faudrait peut-être à un moment donné voir les choses autrement. Parce que quand vous allez sur une manifestation à Saint-Étienne pendant la prime énergie et vous demandez aux gilets jaunes qui gagne plus de 1146 euros, enfin qui déclare plus de 11046 euros par an, vous avez 90% des gilets jaunes qui lèvent la main. Ça veut dire qu'aucun ne toucherait la prime du chèque énergie. Alors bon.
Jérôme, question de Bruno Pomard.
Jérôme, juste une question, on se connaît bien. Le mouvement Gilets jaunes, il s'est tué tout seul, mais il s'est tué un petit peu à cause de leaders dont tu fais partie, qui ont joué un petit peu solo dans cette affaire-là.
Non, il n'y a pas de solo. Moi, je ne joue pas solo. Moi, la télé, j'en ai rien à foutre. La notoriété, la lumière que je me prends sur la gueule, elle est sale et dégueulasse parce qu'il faut que je me mette à répondre à toutes les insultes et tous les quiproquos et le manque de réponses que vous pouvez avoir à l'échelle de ce qui s'est passé la semaine dernière, vu ce que j'ai ramassé sur la gueule. Parce que vous imaginez l'affront de Rodriguez rentrer à l'Assemblée nationale parce que c'était un gilet jaune. Mais je vous garantis qu'à un moment donné, moi, quand j'enlève mon gilet jaune, ben j'ai les mêmes idées. Elles ne changent pas. Je suis pas un citoyen. Moi, quand je mets un gilet jaune, j'ai pas le droit d'avoir des idées, j'ai pas le droit de revendiquer.
Oui, en même temps, la provocation.
La question de savoir, c'est comment obtenir gain de cause. Voilà, c'est
provocation,
Jérôme, sur la police, tu sais très bien.
Malgré les embrouilles qu'on peut avoir, toi et moi, que je suis le premier à pouvoir
passer une table et pouvoir te laisser dire ça. Je peux pas te laisser dire ça.
Tu as provoqué beaucoup la police et les gendarmes sur le terrain. Si, si, mais moi, je le sais.
J'ai fait plein de manifs. Il y a eu un tournant de violence avec les manifestants. C'était sous la loi El Khomri. Avant, j'amenais mon fils manifester. Depuis la loi El Khomri, j'amène plus mon fils avec moi, alors que c'était juste, on manifestait, on était des mamans pour revaloriser nos salaires, tu vois, c'était ça. Et moi, je suis désolée. Il y a eu de l'abus, j'ai commencé par ça tout à l'heure. C'est des manifs, les gilets jaunes, qui ont été extrêmement violentes pour les deux parties. Il y a eu, voilà.
Parce qu'ils n'ont pas su s'organiser,
moi,
c'est ce que je veux dire à Jérôme.
Moi, quand j'ai vu la police prendre l'infirmière et la traîner par...
Et le cliché...
On n'a pas le droit de te répondre, mon cher Bruno.
Demande à Jérôme s'organiser avec ses amis et de faire de vraies manifestations avec des services d'ordre et autres. Il n'y aurait pas de problème comme ça.
Non, je suis désolée. Une vraie manifestation, moi, j'ai jamais déposé une manifestation, j'ai jamais eu de service d'ordre.
Une manifestation qui se passe bien, qui a ouvert.
Exactement, c'est ce que je vais te dire.
Voilà.
Donc, ce que je veux te dire par là, c'est qu'il y a eu, pendant, il y a eu un basculement avec Castaner, d'accord, c'était lui ministre de l'Intérieur à l'époque. Oui, non, mais vraiment, je te dis, moi, regarde, je suis pas une gilet jaune, je fais pas des clichés, je te dis que moi, en tant que personne qui manifestait au passé de manière très régulière, j'ai observé que des deux côtés, c'était extrêmement violent. Voilà, au moment des gilets jaunes. Voilà, et je dis pas que toute la police a tort et que tous les manifestants ont tort.
Merci à Jérôme Rodriguez d'avoir été avec nous. On va continuer la discussion. La précarité qui monte, l'inflation, la fin de la ristourne. Est-ce que vous pensez que le mouvement des gilets jaunes, alors Jérôme dit repartir, puisse s'amplifier sans repartir et puisse s'amplifier puisqu'apparemment il y a déjà des ronds-points qui sont occupés. Bon, on continue d'en parler avec vous au 32-16. Vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est l'heure des grandes gueules et il est 10h20.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story, avant de reprendre notre discussion à propos des gilets jaunes avec Yves. Yves qui est fondateur, tiens, justement, de ce qu'on appelle la Fédération des gilets jaunes, ils nous appellent des Hautes-Pyrénées de Tarbes. On va en discuter avec lui. Je vous rappelle que dans une heure, c'est l'un ou l'une d'entre vous qui sera avec nous pour le pack Coupe du Monde, peut-être, à gagner dans les grandes gueules. Vous m'envoyez coffre par SMS au 732-7. Je vous rappelle le principe. Hein. Et encore aujourd'hui pour gagner sur RMC et demain. Ensuite, c'est le coup d'envoi de la Coupe du Monde. Vous m'envoyez coffre par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez le Samsung Galaxy M23 et le vidéoprojecteur portable. Ça, c'est acquis. Si vous voulez rejouer et me faire ouvrir le coffre, vous aurez dans le coffre soit des AirPods, soit la totale Coupe du Monde. Mais vous perdez le Galaxy et le vidéoprojecteur portable. La totale Coupe du Monde, c'est la télé de 170 cm, la barre de son, la Xbox Series S, le four à mini pizza et le mini bar.
Ah ouais. Le four à mini pizza surtout.
Oui. Les amis.
Mais depuis, lui, il veut le mini bar.
Depuis lundi, ça n'a pas été gagné dans les GG. Donc, jouez-le. On a nos bonnes audiences.
Jouez-le.
Voilà, Mehdi dit jouez-le. Jouez-le. Coffre par SMS au 732-16. Coffre par SMS au 732-16. On revient à notre discussion sur les gilets jaunes. Peuvent-ils retourner sur les ronds-points? Bonjour Yves. Bonjour, vous m'entendez bien Yves ?
Oui, parfait.
Ah, d'accord. Est-ce que effectivement l'occupation des ronds-points est en train de reprendre ?
Alors, bonjour à tout le monde.
Bonjour.
Je suis un peu d'accord avec ce que disait Jérôme. Nous, par exemple, sur Tarbes, nous tenons un marché. Nous sommes sur le marché tous les samedis matin depuis 4 ans, sans discontinuer. Bon, peut-être 2-3 samedis par là, on a fait l'impasse. Donc, on est présent partout. Alors, effectivement, il ne faut pas non plus se voiler la face. La mobilisation n'est pas celle qu'il y a eu il y a 4 ans. C'est une évidence. Mais elle s'est transformée. Vous savez, je crois que de la colère, on est passé à l'action. De l'action, on est passé au projet. On est dans les projets. Les gilets jaunes sont toujours là, mais en termes de projet. On s'est monté en fédération d'association de gilets jaunes. On s'est monté en coordination nationale des groupes historiques du mouvement. Et on est tous en lien. Il n'y a pas une journée où j'ai pas ou Jérôme, où j'ai pas ou quelqu'un dans le Var, ou quelqu'un de La Rochelle, ou quelqu'un de Belgique, ou quelqu'un de Guadeloupe avec Jade. On est en réseau en permanence et on construit. On a été à l'Assemblée des Assemblées, on les a toutes faites. On a été aux universités citoyennes. Il y a encore eu des réunions, il y a un mois dans le Var ou en PACA. Enfin, bref, on est là, on y est. On s'est présenté aux élections législatives. Moi, je me suis présenté aux élections législatives pour essayer de pénétrer les institutions parce que ces grosses institutions de la 5e République, c'est comme un gros cargo un petit peu. Et la meilleure façon, si vous voulez, de dévier la route de ce cargo, c'est de rentrer dans le cockpit, quoi. Voilà. Donc, on essaie de faire ça. On a beaucoup appris. On a argué
argumenté les propos, on a fait de la littérature, on a invité des gens, nous on a travaillé avec Pierre Larouturou sur la taxe Tobin, on a travaillé avec des responsables d'institutions, on a essayé de rentrer un petit peu à l'Assemblée nationale sur la table ronde qui concernait le vote blanc, parce qu'on est sur la prise en compte.
Et vous pensez que Yves, d'ici la fin de l'année ou début d'année prochaine, il peut se passer quelque chose ou pas, que le mouvement reprenne de l'ampleur, franchement, ou pas?
Alors, moi, ce que
le gouvernement a aidé hein, avec les chèques inflation, les chèques énergie, l'inflation est mieux contenue en France qu'ailleurs, donc c'est à prendre en compte, ça aussi.
Alors, tout à fait. Deux questions dans une. Le gouvernement a aidé et est-ce que le mouvement peut reprendre? Alors, le gouvernement, non, n'aide pas, là. Le gouvernement nous installe dans la précarité. Quand on n'augmente pas le pouvoir d'achat et qu'on donne des chèques pour nous aider, on installe l'individu et les citoyens et le travailleur dans la précarité. Ouais. Nous, ce qu'on demande, c'est la possibilité de vivre dignement avec les salaires, pas dignement juste pour payer à manger, dignement pour aller au resto, dignement pour sortir, dignement pour voyager. Mais alors,
vous êtes artisan, donc ça ne dépend que de vous, en tant qu'artisan, de trouver des clients, de vous développer, de bien gagner votre vie.
C'est une bonne intervention de votre part, comme de l'autre. Mais effectivement, moi, en tant qu'artisan, moi, ça fait plus de 20 ans que je suis artisan, je suis aussi dans des clubs d'affaires parce qu'on essaie de se mobiliser un peu entre artisans pour s'aider. Moi, j'ai l'URSSAF qui m'a fait un rattrapage de notre monde où ils sont en train de me prélever plus que ce que je gagne. Ils m'ont dit, quand je les ai au téléphone, ils me disent, on sait, monsieur Castera, on connaît le problème, on sait qu'on fragilise les entreprises, mais on n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc, on est en train de payer des cotisations fortes, impressionnantes, mais sans traçabilité. On ne sait pas où va l'argent.
L'argent, le problème, c'est qu'on a l'impression que ça va dans un truc sans fond, et qu'aujourd'hui, tout ce qui est service public, ça se dégrade. Et donc, on est beaucoup prélevé, et on n'en a pas pour notre argent, c'est le cas de le dire.
Pire que ça, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de la caisse d'amortissement de la dette sociale, c'est la CADES. Vous voyez qu'en tant que gilet jaune, on a progressé, on s'est documenté. La CADES est prélevée sur la CSG, sur le RDS. Sauf que la CADES, comme ils ont trouvé dans les années 80 avec Mitterrand, comme ils ont trouvé que la CADES faisait énormément d'argent, cet argent part à la spéculation. Ça, ce sont les économistes atterrés qui le disent. Ce sont des docteurs en économie qui ont sorti cette affaire-là. Ça veut dire que notre CSG et notre RDS, nos cotisations sociales partent à la spéculation. Donc effectivement, vous avez raison, c'est un puissant fonds, mais c'est un puissant fonds qui part à la spéculation. C'est-à-dire que nos cotisations sociales, les services publics de la santé, par exemple, se dégradent, 6 000 lits fermés pendant la crise sanitaire. Et nous, nos cotisations augmentent. Donc oui, les gilets jaunes doivent être dans la rue, et c'est pourquoi nous appelons avec Jérôme et bien d'autres, et nous, on appelle
quand
à Tarbes à venir
quand,
à 19h en place de Verdun à Tarbes.
Voilà. Quand mais quand, quand oui, mais quand?
Mais quand? Ce soir.
Yves, 19h à Tarbes.
Yves, une question, parce que visiblement... Visiblement, vous arrivez à structurer ce mouvement Gilets jaunes, puisque vous avez monté une fédération. Est-ce que vous n'avez pas peur que des leaders, dont fait partie Jérôme Rodriguez en particulier, mais d'autres, McFly et autres, prennent le lead, parce que c'est ce qui a tué le mouvement Gilets jaunes.
Alors, vous avez su. D'accord, et c'est une question cruciale dans ce mouvement-là. Ouais. Ce mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement exceptionnel, pacifique. Depuis 1945, on n'a pas rencontré un mouvement tel que celui-là. Alors, effectivement,
pacifique,
il y a le problème du leader.
Yves, excusez-moi, pacifique, vous avez dit?
Oui, alors je vais vous dire pourquoi. On n'a jamais vu, moi j'ai fait toutes les manifs ici dans la région, on a les copains de la Fédé qui ont fait des manifs partout et on a des retours d'informations. Alors effectivement, s'il suffit d'endosser un gilet jaune et de casser une vitrine ou d'insulter la police pour dire les gilets jaunes sont, effectivement, il y a eu de la violence. Mais qui a cassé, voilà, à qui a profité ce crime-là?
C'est le problème de l'amalgame.
Mais voilà. si vous voulez être crédible, mon cher Yves, permettez-moi de vous donner un conseil. Organisez-vous des services d'ordre, comme le font les grands syndicats, et ça évitera évidemment des débordements. Merci. Et des interventions de la police.
Merci à Yves, dans tous les cas, d'être intervenu de Tarbes, Yves, de la Fédération des Gilets jaunes.
Non, mais en fait, les problèmes soulevés par les Gilets jaunes il y a 4 ans sont toujours là, et encore plus peut-être.
Parce que la
différence, il y a 4 ans, il n'y a pas d'inflation. Maintenant, il y a l'inflation qui s'est en plus rajoutée. Et donc, ce sentiment que finalement, avec le salaire, le travail, on s'en sort pas et que ça suffit pas pour bien vivre, il est toujours là.
Ouais, il est là.
Les gilets jaunes, je suis désolé, ça a été un échec. Enfin, ça a été un échec. Il faut peut-être relativiser. C'est-à-dire qu'ils ont quand même obtenu des choses, puisqu'on voit à l'époque,
il y a eu 10 milliards.
Les 10 milliards, on sait pas trop qu'ils ont été saupoudrés. Voilà. Finalement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de ces 10 milliards? Ça a été un échec dans le sens où finalement, ils ont pas réussi à concrétiser politiquement. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Jérôme. Il fallait des leaders dans tout moment. Il faut des leaders.
C'est Bruno,
Pardon. Jérôme, c'est l'autre. Non, mais il faut toujours des leaders dans un mouvement, parce que s'il y a pas de leader, à un moment donné, tu peux pas le porter politiquement.
Mais t'as vu comment c'est parti un bazar? Vous les avez reçus sur vos plateaux?
Oui, mais parce que les leaders
sont plus pour les stars plus que pour les.
Oui, mais ils s'entretuaient entre. Enfin bon, bref, on va pas refaire toute l'histoire des gilets jaunes, mais le problème de fond des soulevé par les gilets jaunes est toujours là. Comment le résoudre, c'est toute la question.
Mais c'est Jean-Michel qui est avec nous, qui nous appelle du Gard. Bonjour Jean-Michel.
Oui, bonjour.
Vous, le prothésiste dentaire. Alors, quel est votre camp, mon cher Jean-Michel?
Alors moi, mon camp, moi j'ai fait les premiers ronds-points, on va dire. Après j'ai arrêté parce que bon, la violence, c'était pas mon combat. Par contre, là je pense que ça va reprendre. Ça va reprendre peut-être pas de suite. À mon avis, ce qui va tout déclencher, c'est la réforme des retraites.
Ah, c'est possible.
Voilà.
Ah, c'est très possible.
La réforme des retraites.
Ah, c'est très possible. Je pense que oui.
Ça va redémarrer.
Vous savez pourquoi, Jean-Michel? Parce que quand il y a la... il y a quelque chose. On va essayer de rester factuel. Quand il y a eu la pénurie des carburants, les gens, ça leur dérangeait pas de mettre le plein à 2,30€, 2,40€. Hein. Je l'ai remarqué. Hein. J'étais moi-même choqué parce que vous savez quand il y a eu la pénurie. Les gens ne regardaient plus le prix.
Non, parce qu'ils étaient affolés. Ils étaient affolés,
exactement, voilà, et ils mettaient le plein. Donc, refaire un comeback des gilets jaunes pour le carburant, pour le prix du carburant, j'en doute. Vraiment, j'en doute fortement. Par contre, il est évident que la réforme des retraites
va être très problématique.
Et là, il est très fort probable qu'il y ait justement. Voilà, qu'il y ait des manifestations un peu...
Et pour aller dans ton sens, c'est que Emmanuel Macron a eu la tentation de faire passer cette réforme en septembre.
Ouais,
il a reculé, pensant que janvier, ça serait mieux. Moi, je pense que janvier, ça sera pire, parce que janvier, c'est là où on va avoir tous les problèmes en même temps. Et le carburant qui restera cher, l'électricité et le gaz qui vont augmenter plus. Parce que finalement, on n'a pas encore vraiment connu l'augmentation, nous, particulière de l'électricité et le gaz.
Puisque c'est à partir de fin novembre.
C'est à partir de là, maintenant.
De fin novembre, parce qu'à fin novembre, il y a les
contrats se renouvellent. Ça sera plafonné, l'augmentation. Je crois que c'est
15%.
Voilà, c'est plafonné, mais enfin 15%, c'est quand même
énorme,
un budget.
C'est énorme.
C'est énorme sur un an. Tout le reste. Donc, effectivement, faire le pari qu'en janvier, ça sera plus calme qu'en septembre.
Je pense que c'est un mauvais calcul.
Allez-y, Jean-Michel.
Les artisans, là, le monsieur qui vient de parler a tout à fait raison, parce que moi, je suis concerné. L'URSSAF, on nous l'a lissé pendant le
Covid.
Enfin, voilà, on nous a lissé l'URSSAF en nous faisant. Bon, ça nous a permis de tenir, on va dire. Par contre, maintenant, c'est un scandale. Moi, je peux vous donner les chiffres. Je gagne entre 2000 et 2500 euros par mois en faisant entre 12 et 14 heures par jour, à peu près. Et l'URSSAF, actuellement, me prend pratiquement 4000 euros tous les mois.
Excusez-moi, mais j'ai toujours trouvé que l'URSSAF, elle viole les petits entrepreneurs, en fait, les TPE, les PME. C'est
donc,
du viol. Voilà.
Donc ça, bon, moi, j'avais un gars qui est parti, que j'ai pas remplacé. Parce que je peux plus, hein. C'est pas possible. Bon, maintenant, moi, j'ai 59 ans, donc je vais tenir, hein. Je vais aller jusqu'au bout comme ça. Mais ça va exploser parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Tous les artisans vont lâcher l'affaire, là. Ça peut pas marcher.
Eh bien, Jean-Michel, on aura pris un peu la température grâce à vous, à Yves, grâce à Jérôme. Merci, Jean-Michel. Passez une bonne journée.
Allez, vous aussi.
Du côté du garde.
Merci à vous pour votre émission, hein, parce que ça. Vous parlez de choses, tout le monde n'en parle pas.
C'est pour ça qu'on vous donne la parole.
J'écoute la radio toute la journée, moi.
Merci.
Et quand je regarde les actualités à la télé, c'est plus les mêmes.
Merci Jean-Michel. Allez, de votre fidélité. À Saint-Julien de Cassagne, c'est ça?
C'est ça, Cassagnas.
D'accord. Allez. Quel temps vous avez en ce moment là chez vous?
Là, il fait encore bon, mais apparemment on aura la pluie d'ici ce soir. Mais là, ça va.
Merci Jean-Michel. Allez, à bientôt dans les GG, à bientôt dans les grandes gueules.
Est-ce que Paris, on peut craindre
un retour des gilets jaunes? C'est la question qu'on s'est posée. On en a parlé avec vous là pendant 20 minutes.
Ah, c'est
56.
C'est partagé.
C'est mitigé.
C'est un nom quand même, 56.
S'il y en a que 43% qui descendent.
Mais dans beaucoup de sondages, c'est comme ça, la France. C'est très équilibré quand même.
Allez, dans un instant.
Parce que justement, il y a une fracture sociale qui est terrible en France. C'est ça, c'est qu'il y a des gens qui ne ressentent pas justement ce qui se passe. Et il y a des gens qui le ressentent profondément. Et le problème de la France actuellement, c'est ça.
Dans un instant, avec les GG, avec les grandes gueules, vous savez qu'on a le Grand Prix des maires qui approche. L'Association des maires de France va se retrouver en congrès. Il va y avoir la distribution des prix pour les bonnes initiatives. RMC partenaire, les grandes gueules aussi. Donc tous les jours une candidature. Dans un instant, Sorgue dans le Vaucluse, Bernard Rijade, son initiative dans le cadre de ce qu'on appelle la catégorie commune sociale et responsable. Le stage pour apprendre la citoyenneté aux jeunes. Il va nous en dire deux mots. Et puis on aura Anaïs Sainz aussi pour le quiz des GG.
RMC. 9h midi. Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules sur RMC, RMC Story. Il est 11h moins le quart. Les amis, avec Mehdi Guézard, avec Yaouter Ben Mohamed, avec Bruno Pomar. Bruno qui est maire de Belflou dans l'Aude. Et c'est justement les maires qui bientôt, enfin, certains d'entre eux, seront récompensés.
Ouais, c'est bien ça.
RMC, les grandes gueules.
Voter pour toi, Bruno.
Oui, ça fait des années qu'avec RMC et les grandes gueules, nous sommes partenaires de l'Association des maires de France pour récompenser les belles initiatives. Vous savez, on a toujours... On reproche toujours à la France que ce soit un pouvoir vertical, c'est-à-dire que ça parte de Paris et qu'ensuite ça descende sur le reste du pays. Eh bien, nous, on a essayé d'inverser les choses en disant, ben, quand il y a des belles initiatives en France, eh bien, faisons en sorte que ça parte des villes et que ça remonte vers le haut.
L'idée, c'est de faire connaître ces initiatives. C'est le principe du Grand Prix des maires avec la remise des trophées mercredi prochain à Folies Bergères à Paris. Donc, il y a plein de maires qui concourent, là, qui, le suspense monte, et notamment Bernard Rijade qui est avec nous, le premier adjoint au maire de Sorgue dans le Vaucluse. Bonjour, monsieur Rijade. Bienvenue dans les grandes gueules.
Bonjour.
Oui, bonjour, bonjour.
Alors, l'initiative qui a été retenue, c'est ce stage pour apprendre aux jeunes la citoyenneté, l'entraide et la résilience.
C'est-à-dire, comment ça se passe?
Alors, vous voulez dire pourquoi j'ai créé ça et comment, hein?
Oui, c'est ça.
Départ. Bon, en fait, si vous voulez, moi j'ai été médecin généraliste pendant 40 ans sur la ville de Sorgue. Et puis j'ai observé pas mal de choses, détérioration du lien social, la progression des incivilités, etc. Et j'ai eu l'idée de monter une association à l'époque qui s'appelait Association Délinquants Zéro. Et j'ai créé un club de boxe, et donc avec pour occuper les jeunes qui étaient un peu en déshérence, qui ne participaient pas à ce que la commune proposait. Ça a marché, j'ai eu plein de jeunes, j'avais que des jeunes de quartier. Seulement au bout d'un moment, je me suis rendu qu'en fait, moi j'avais créé que de l'entre-soi. Il n'y avait aucune mixité sociale. Et là, j'ai voulu changer. J'ai voulu trouver, si vous voulez, un nouveau concept. Partir pour avoir véritablement créé une connivence entre les gens. Que les gens se parlent dans les quartiers. Que les quartiers prioritaires parlent aux autres quartiers. Donc, l'idée, c'était d'occuper, si vous voulez, le terrain sur une tranche de la population, c'est-à-dire toutes les classes des cinquièmes. En fait... le passeport s'occupe de tous les enfants des classes de 5e pour les mixer entre eux.
Et donc, alors, quartier populaire et quartier plus favorisé.
Qu'est-ce que vous leur faites faire comme atelier, monsieur le maire? Alors
voilà, ça se passe sur une semaine, d'accord? C'est sur la base du volontariat. Et donc l'idée, c'était d'utiliser de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire se baser sur un petit peu la dynamique des groupes, sur les sciences cognitives, sur les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Et pendant le confinement, j'avais lu un livre qui s'appelait donc les techniques d'optimisation du potentiel. Vous savez, ce sont des techniques qui ont été créées par Madame Edith Perropierre, qui était un médecin militaire, et qui sont utilisées pour le GIGN, les pompiers, pour gérer les conflits, le stress, etc. Et donc, je l'ai appelé pendant le confinement, et je lui ai demandé, est-ce que vous pensez qu'on peut utiliser ces techniques pour des enfants de 5e, quoi, hein? Elle m'a dit, mais on l'a jamais fait, mais vous pouvez tenter. Donc,
alors, j'ai regardé, voilà, les ateliers. Vous avez simulation d'un accident de la route, escape game pour sauver un camarade, visite d'un laboratoire militaire souterrain, parcours du combattant pour évacuer un blessé. C'est-à-dire, on met tous nos ressources en commun dans un but d'action collective, quoi, dans un but positif.
Alors ça, si vous voulez, c'est ateliers top. Il y a un circuit, et dans ce circuit, on va développer, bien sûr, la gestion du stress. C'est-à-dire que, ils partent par, vous les avez vus peut-être dans le film,
ils partent par
5 ou 6, ils ont des petites épreuves, des choses à monter, ensuite ils vont sauver des blessés dans une forêt, il y a le feu, on augmente le temps de chronométrage, il y a trois passages. Et là, on s'aperçoit qu'il y a l'entraide qui se développe, parce qu'ils ne peuvent pas ramener les mannequins, si vous voulez, les blessés, en fait, sans s'aider les uns des autres. Donc, ils découvrent ça. Mais ensuite, il y a la contagion émotionnelle, c'est-à-dire on se rend compte que ça monte en intensité, ils s'applaudissent, ils crient, ils se félicitent, ils s'embrassent, en fait. Ouais. C'est fabuleux à voir. Hein. Je veux dire,
qu'est-ce qui reste de ce groupe? Parce que donc il y a quoi? C'est 60 collégiens de tous les milieux sociaux et ce groupe soudé, il reste ensuite après cette semaine de stage.
Donc là, si vous voulez, on est dans l'expérimentation. Vous l'avez compris. Cette année, je viens de finir la deuxième session. Hein. J'ai rajouté d'ailleurs des ateliers. J'ai rajouté un atelier philo. On a un petit peu modifié les choses. On est dans l'expérimentation, c'est-à-dire qu'en fait, on observe et on corrige et on remarque ce que les enfants nous disent. C'est-à-dire, ensuite on les interroge, on a fait des questionnaires. Mon but, si vous voulez, c'est d'arriver à quelque chose qui soit pérenne et que je puisse proposer peut-être comme nouvelle méthode, presque comme un petit service civique, si vous voulez, qui permettrait aux enfants d'acquérir des valeurs, une connivence entre eux, mais il faut voir comment ils se connaissent pas au départ.
Écoutez, monsieur le maire, dans tous les cas, c'est pour ça que votre initiative a été retenue, Bernard Rijade, catégorie ville, commune sociale et responsable, et on verra le 23 novembre prochain si vous êtes récompensé. Merci monsieur le maire de Sorgues, et au plaisir de vous retrouver avec
pas le maire de Sorgues,
le premier adjoint.
Un jour,
monsieur le maire aussi. Monsieur l'adjoint. Merci Bernard Rijade d'avoir été avec nous. Ouais, belle initiative. Et
voilà. Bravo.
Et rendez-vous.
Un groupe soudé, c'est un peu comme dans les grandes gueules, mais on devrait peut-être organiser des parcours de combattants pour les GG.
On est dans la même équipe, Bruno et Kauter.
Je vous invite la prod dans mon domaine à Dreux pour faire un truc. Toute la prod avait des techniciens et tout.
Mais on se déteste. Je vous prends un mot là. Mais écoutez, un jour on ira en vacances et on vous enverra des photos. Oui, on se déteste pas.
À Bali.
On mange souvent ensemble, on échange beaucoup.
Ouais.
On se conseille sur un jet privé.
Payé par
Mehdi.
Évidemment. Allez, on y va pour le quiz des grandes gueules.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
C'est moi Poutine, c'est ça?
Ma chère Anaïs, bien le bonjour.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Bon, on a deux personnes autour de la table que tout oppose, Mehdi et Kauter, le Parisien et la Marseillaise. Juste. Alors du coup, on va voir les GG avant de défendre votre ville sur les réseaux sociaux, parce que je vous ai vu sur Twitter hier soir, ça s'écharpe, ça défend Marseille, ça défend Paris. Mais est-ce que vous connaissez bien, vraiment bien, votre ville respective? C'est le quiz Paris ou Marseille.
C'est comme les voitures, des trucs de 1980.
Non. Quelle est la plus vieille ville des deux?
C'est nous, 2600 ans d'histoire et d'existence.
Marseille.
Marseille.
Fondée en -600 avant Jésus-Christ par les Grecs.
C'est pour ça qu'ils ont gagné la Ligue des Champions avant nous.
Elle s'appelait à l'origine Massalia, puis Massilia sous l'Empire romain. Bravo, Kauter. D'où vient la rivalité entre les deux villes?
Match de foot, non?
Petit 1, du foot. Petit 2, de la royauté ou simplement de Mehdi et Kauter?
De la royauté.
Exactement, de la royauté,
du
côté de Versailles, le côté rebelle de Marseille ne plaît absolument pas à la cour des rois, qui cherche à unifier son territoire.
Pour une fois que Marseille gagne contre Paris.
Mehdi se révoltait à l'époque, Louis XIV descendait en personne dans la cité phocéenne pour punir les Marseillais et réaffirmer son autorité. 850 km aller-retour à cheval quand même.
Reprends-toi Mehdi, 2-0.
Il n'y avait pas de voiture.
Ce qui a changé, c'est que le roi actuel aime Marseille et supporter de Marseille.
Et qui le roi?
Macron.
On continue Anaïs.
Où auront lieu les JO 2024?
Paris et Marseille.
Exactement, vous voyez, il y a des points communs. Les deux villes ont candidaté en fait ensemble, les amis, puisque Marseille accueillera les épreuves de voile, mais aussi 10 matchs de foot olympiques.
Non, Bruno, pas de fan.
Et à part les JO, qui peut vous réconcilier aujourd'hui? C'est un homme.
Guendouzi.
Non, vous savez que j'ai une affection toute particulière pour l'AS Saint-Etienne. Oui. Alors, qui peut vous réconcilier aujourd'hui? Quelqu'un qui est passé par les Verts?
Ah, Michel Larquet.
Non.
Platini?
Non.
Galtier.
Christophe Galtier qui a entraîné des années l'AS Saint-Etienne. Mais qui entraîne?
Désolé pour toi, tu as encore perdu contre moi.
J'ai pas perdu, je t'ai laissé gagner.
Arrête, qui
m'en fait perdre? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu t'imagines les questions?
Pourquoi Galtier?
C'est incroyable, Marseille. Ça fait 20 ans qu'on regarde dans le métro.
Qui est Marseillais, qui a joué à l'OM.
Et qui entraîne Paris.
Et qui entraîne Paris et qui a entraîné aussi.
Ouais, tu vois, ça s'appelle.
Non, c'est le mec qui va gagner.
Suite du quiz, Anaïs.
L'éphéméride du jour, les amis, de qui fête-t-on l'anniversaire? Une actrice française. Vous ne trouvez pas, j'ai un petit
indice. Agé
Catherine Deneuve.
Non,
moi j'aurais dit Adjani.
56 ans.
Attends, indice musical.
Sophie Marceau. La plus belle.
Sophie Marceau, qui fête ses 56 ans, elle est née en 1966. Qui d'autre est né un 17 novembre, les amis?
Acteur?
Une très grande personnalité, une très grande gueule. La réponse Maillot. Est avec nous par
Jacques
téléphone.
Bravo
Mehdi. Bonjour Jacques.
Bonjour.
Jacques. Oui, bonjour.
Bonjour.
Bon anniversaire.
On tenait
merci beaucoup.
Bravo. Bon anniversaire Jacques.
On tenait à te souhaiter un bon anniversaire dans les GG. Trois grandes gueules qui permettent de renouveler les GG aussi. Kaouter Ben Mohamed, Bruno Pomard et Mehdi Guézard. Mais tu es notre président, notre grande gueule historique et tu le resteras jamais, mon cher Jacques.
Mon cher Alain, bravo pour les audiences. À la fois les audiences radio et télé.
Je vois, Jacques, que tu es toujours bien informé. Tu es toujours bien informé, Jacques.
Toujours bien informé, absolument. Il y avait un article dans le Parisien sur les audiences. Puis j'ai écouté Olivier ce matin ainsi qu'Alain. Je vous écoute régulièrement. Mais je pense venir faire un saut un jour, physiquement.
Ah, comment vas-tu, Jacques?
Qu'est-ce que j'allais vous dire? Si un jour vous venez, j'adorerais faire partie de ce plateau.
Globalement positif.
Bon, ben tant mieux, c'est une bonne nouvelle.
Je vais mieux que la France, et je trouve que le président de la République est un bout du genou. C'est pas la peine d'avoir un jeune président. Une première proposition, il y a une quarantaine de ministres, il y a des ministres qu'on n'entend jamais, des secrétaires d'État qu'on n'entend jamais, qu'on réduise le gouvernement à 12 personnes. Première économie.
Il a raison.
Ça fait longtemps qu'ils veulent le faire, ça, tous.
Moi, j'adorerais faire un plateau avec vous si vous revenez un jour de manière exceptionnelle.
Oui, j'aimerais faire un plateau, aucun problème.
Mon cher Jacques, c'est un plaisir de t'entendre.
C'est avec beaucoup d'émotion.
Tu n'as rien perdu.
Tu fais quoi aujourd'hui? Tu te fais une bonne table pour fêter ça?
Je fais une table aujourd'hui, mais je vais fêter ça au Futuroscope avec mes enfants et mes petits-enfants. Uniquement avec une des deux jumelles et puis avec Catherine.
Tu embrasses Catherine, Jacques, on te souhaite un bon anniversaire. On est très heureux de t'entendre.
J'avais fêté les 70 ans dans les GG.
Effectivement.
J'ai pas pu fêter les 80.
On s'en souvient, Jacques. À très bientôt dans les grandes gueules.
À bientôt et bravo à tous. Et salut Alain, salut Olivier, salut. J'embrasse Anaïs et toute l'équipe.
Merci, Jacques.
On t'embrasse. Je suis sûr que beaucoup de ceux qui nous écoutent en ce moment auraient été contents de réentendre ta voix. Kaouter a envie de faire une émission avec le mythique président Maillot, l'historique président Maillot.
J'adorerais, vraiment.
Jacques, depuis qu'on le connaît, il demande un gouvernement resserré.
Mais il a raison.
Et à chaque fois, d'ailleurs, il y a des promesses. Ouais. Hein, les candidats disent on sera pas nombreux. Et là, on a battu un record.
On a le gouvernement le plus important et qui coûte le plus cher de l'histoire de la 5e République. C'est quand même un truc de dingue.
Mais on est dans la sobriété.
Allez, dans un instant, avec les Gigi, avec les grandes gueules.
De baisser le chauffage d'un degré, de baisser l'électricité, d'éteindre les lumières. C'est super important.
Les grands appartements.
À vous de choisir. On vous a fait deux propositions. De quoi voulez-vous que nous parlions? À part ce qui s'est passé à Marseille dans un lycée, 6 élèves renvoyés parce qu'ils ont fait un blackface. C'est éteint le visage en noir, ou bien de la réintégration des soignants non vaccinés. C'est sur internet, rmc.fr, que ça se passe. On réintègre les soignants non vaccinés. On parle de ce qui s'est passé à Marseille. Vous votez, et puis ensuite, on en discute ensemble. Dans un instant. Anaïs, on en parle dans un instant avec vous au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.
RMC, football. Samedi à 15h au Stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury, finale de la Coupe de France féminine, samedi à Montpellier avec RMC.